Vous écoutez Secrets d'Histoire, Napoléon, l'exilé de Sainte-Hélène. Troisième partie.
Alors que Longwood est devenu une forteresse assiégée, l'empereur va devoir compter plus que jamais sur ses serviteurs les plus proches, car son ennemi principal désormais n'est autre que son propre corps.
L'exil de Sainte-Hélène, il le vit dans son corps, il le vit dans ses habitudes, il perd complètement le sens du temps, il n'a plus rien à faire.
Émilie Robbe, conservatrice en chef au musée de l'armée.
Tous les rituels de sa vie, tout ce à quoi tenait en fait sa santé mentale se désagrège petit à petit.
Et le bain, c'est son refuge.
Napoléon se sent effectivement comme ça protégé et un petit peu comme ça isolé du monde et hors d'atteinte. Il y reste de longues heures, il y travaille. Il est d'ailleurs sans pudeur, hein, puisqu'il apparaît avec ses domestiques ou même ses officiers absolument dans la tenue d'Adam.
Il y tient la conversation avec des messieurs ou avec des dames, d'ailleurs, de façon complètement indifférente.
Même un jour, d'ailleurs, il va sortir de son bain. Il va dire, comme mon bain est encore chaud, si vous voulez, Lascaz, allez-y, plongez-vous dedans et venez à ma suite. Bon, évidemment, Lascaz, surpris, n'a pas donné suite.
Il a l'œil de plus en plus terne, la parole de plus en plus rare. Il va grossir. Et il va prendre cet embonpoint, finalement, qui l'empêche de monter à cheval. On le voit beaucoup moins brillant orateur, on le voit beaucoup moins sûr dans sa mémoire, on l'entend poser deux, trois, quatre fois la même question, ne pas mémoriser les réponses.
Il a un gonflement des jambes, des chevilles.
Christophe Pincemaille, historien.
S'essouffle, il est pris de constipation chronique, de douleurs gastriques. Il n'est véritablement pas en forme.
Parti en exil sans ses médecins habituels, Napoléon a dû recruter en arrivant sur l'île un médecin irlandais, le docteur O'Meara.
Napoléon se plaint depuis plusieurs mois d'une douleur vive au côté droit. Et cette douleur ne va faire que s'accentuer.
O'Meara diagnostique à Napoléon une hépatite, donc une maladie du foie. Et la maladie du foie, c'est un motif qui est suffisamment grave pour justifier effectivement un retour sanitaire en Europe au plus vite.
Pour Hudson Law, Napoléon a une maladie qu'il appelle diplomatique.
Docteur Alain Goltcher, historien de la santé de Napoléon.
Il veut retourner en Europe et pour lui, il simule une maladie.
Hudson Law va demander à des médecins anglais de rédiger des contre-rapports, des médecins qui n'ont jamais vu Napoléon et qui disent qu'il se porte très bien et il fait partir ses rapports en Europe. Donc du coup, officiellement, pour le grand public, pour le gouvernement anglais, Napoléon va bien.
O'Meara est un peu obligé par Hudson Law de le prévenir de tout ce qui se passe à Longwood, mais Napoléon finit par s'en apercevoir et finalement, il lui demande de choisir. O'Meara finit par choisir Napoléon. Hudson Law, il obtient de Londres l'autorisation en 1818 de le renvoyer. À partir du départ de O'Meara, Napoléon, pendant plus d'un an, n'aura plus de médecin traitant.
Napoléon n'a pas eu beaucoup, parmi les milliers de nuits qu'il a passées à Longwood, des nuits très tranquilles. Hein.
Pierre Branda, historien.
Et il fait d'assez mauvais rêves, des cauchemars, il se réveille en sursaut, ce qui réveille aussi son valet de chambre. Et d'ailleurs, il se réveille si souvent qu'au lieu de dormir sur le pas de sa porte, bien souvent, en fait, ses valets dorment dans le fauteuil à côté ou même à côté de son lit par terre, en fait. Ce moment nocturne est assez difficile pour Napoléon, finalement. Hein, traversé entre les angoisses, la maladie, comme il se retrouve du seul à seul avec lui-même dans une chambre très petite. Là, il y a un sentiment de prison, hein, d'emprisonnement qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus angoissant.
C'est aussi au cours de ces nuits que se fait sentir le plus cruellement l'absence des proches restés en Europe.
Napoléon est quelqu'un de très sentimental, qui a besoin de ses proches, de sa famille autour de lui.
Jean-Christophe, Prince Napoléon.
C'est un Corse. Il écrivait très souvent à Marie-Louise et à son fils. Je pense qu'il a cultivé l'espoir pendant un certain temps, en tout cas, qu'elle le rejoigne avec son fils. Mais il s'est très vite rendu compte que ça ne serait pas le cas.
C'est la pire blessure que l'on puisse infliger à un homme que de le priver de son enfant.
Philippe Séguy, écrivain.
Et c'est bien le martyr absolu que l'histoire, que l'Europe réserve à Napoléon. L'Angleterre a été abjecte par rapport à cela. Elle s'est acharnée à faire en sorte de ne donner aucune nouvelle et du roi de Rome et de Marie-Louise.
Au début de l'année 1819, Napoléon vit dans l'attente d'une nouvelle qui peut changer son destin. Les puissances qui l'ont vaincu et condamné à l'exil, y compris l'empereur d'Autriche, son beau-père, se sont réunis au congrès d'Aix-la-Chapelle pour discuter de son sort.
Il va être fort déçu parce que les souverains alliés, au lieu d'adoucir ses conditions de détention, demanderont qu'au contraire, on le surveille encore plus.
Il comprend que c'est l'Europe entière qui est liguée contre lui et que c'est fini et qu'il est seul, encore une fois. N'oublions pas la solitude extrême de l'empereur Napoléon. Que peut-il faire contre une Europe fédérée qui a décidé une fois pour toutes qu'il fallait le rayer de la surface de la planète?
Napoléon est un combattant dans l'âme. Or, s'il sait qu'il ne peut plus influer et être quelque part maître des événements, pour Napoléon, c'est une catastrophe.
Il sait qu'il va mourir sur ce caillou perdu de l'Atlantique Sud.
Thierry Lenz, historien et directeur de la Fondation Napoléon.
Et c'est à ce moment-là qu'il décide qu'il sera le Christ, en quelque sorte. Il le dit au général de Montholon, si le Christ n'était pas mort sur la croix, il ne serait pas Dieu. Sous-entendu, je vais vivre ma passion. Et moi aussi, je serai Dieu.
C'est la période à laquelle il va y avoir les départs. Les gens de son entourage qui l'apprécient, pour lui, c'est devenu comme une famille. Mais chaque départ, ça augmente sa dépression, son stress.
Il y a déjà eu le départ du comte de Lascaz, il y a eu le départ de Gourgaud, et il y a maintenant le départ d'Albine, de Montholon, la ravissante Albine. Le rayon de soleil, en quelque sorte, qui distrayait Napoléon.
Ça ajoute encore à son chagrin.
Jean Tullard, historien.
C'est la dernière consolation de son dernier amour. Il sait qu'après, il n'y a plus rien.
C'est à la même époque que se produit à Longwood un incident particulièrement troublant.
Cipriani, maître d'hôtel, règle le service du soir quand, soudain, il est pris d'une douleur intense. Il se plaint de douleurs atroces à l'estomac. Ses cris, d'ailleurs, résonnent dans tout Longwood.
Et trois jours après, ce malheureux Cipriani meurt dans des conditions mystérieuses.
On a peur qu'il ait été empoisonné. On se dit que c'est peut-être une sorte de maladie qui traîne sur l'île que d'autres pourraient attraper. Donc, il y a une sorte de peur de la mort qui s'installe à Longwood.
Cipriani avait réussi à, comme ça, s'infiltrer dans l'île de partout et jusqu'à gagner la confiance des Anglais. Quand il perd Cipriani, il perd un allié de poids, un espion de première main. Pour Napoléon, c'est une grande perte qui ne sera jamais remplacée.
À ce moment précis, on sent que son moral atteint le niveau le plus bas. Il ne s'habille presque plus, il ne sort plus de chez lui. Il est fréquemment vu dans une tenue d'intérieur avec des flanelles par-dessus laquelle il passe une sorte de robe de chambre qu'on appelle parfois la redingote blanche. Et il porte dans ses cheveux un accessoire dont Joséphine elle-même lui avait apparemment donné l'idée, qui est un foulard, le madras à carreaux rouge et jaune. Napoléon a abandonné toute idée de représentation.
Afin de conjurer sa solitude, Napoléon s'est adressé à sa famille pour obtenir un nouveau médecin, ainsi que deux aumôniers.
Quand Napoléon reçoit le médecin corse Santomarchi, Vignali, Bonavita, les deux abbés qui sont envoyés par sa mère, il est très surpris de la médiocrité des personnages. Il pense même d'ailleurs que sa mère a fait exprès. Il ne comprend pas vraiment. La mère de Napoléon et le cardinal Fesch sont sous l'emprise d'une voyante. Ils ont un peu perdu la raison de leur côté.
Madame Mère pense même que son fils a été enlevé par la Vierge et mis en sécurité.
Charles-Éloi Vial, historien.
Donc il y a une sorte d'exaltation un petit peu mystique du côté des aînés de la famille Bonaparte qui fait qu'ils ne s'intéressent pas trop à Sainte-Hélène. Pour eux, ça n'est pas quelque chose de réel.
Donc en fait, ils envoient des gens qui ne sont pas très à la hauteur de leur tâche. La particularité d'Antomarchi est tout de même un peu inquiétante pour Napoléon, c'est qu'il n'a jamais soigné personne avant lui dans sa vie, puisqu'il n'a étudié que des planches anatomiques en Italie. Donc c'est tout de même ennuyeux pour un docteur.
Malgré tout, quand il rencontre Napoléon fin 1819, il lui dit très clairement « Vous ne pouvez pas continuer comme ça, votre réclusion est suicidaire, vous devez sortir, vous devez faire de l'exercice, lutter contre la dépression, sinon vous allez mourir. »
Il va mettre l'empereur Napoléon au jardinage. N'oublions pas que Napoléon fait tout à fond.
Napoléon va se battre, il va reprendre le dessus.
Il prend cela avec ardeur, il se lève à 6h du matin, il est lui-même en costume de jardinage, lui-même on le surprendra une bêche à la main, enfin il ordonne, il commande. Comme toujours avec lui, c'est sans réserve, de manière obsessionnelle.
Il y a des dizaines d'ouvriers chinois à ses ordres, il va faire creuser un bassin, il va faire édifier un petit pavillon, il va faire planter des arbres, planter des fleurs, ça devient un très beau jardin.
Le jardin de Longwood est pensé presque par Napoléon, qui est un homme de guerre et un artilleur, comme un moyen de défense.
Des allées creuses sont mises en place, il a fait ériger des haies, ce qui fait que Napoléon peut maintenant se promener sans être vu des sentinelles anglaises. Il est en train de se dissimuler, de se cacher du monde, en fait.
À partir de juin, juillet, août 1820, il y a un symptôme que Napoléon replonge dans la dépression très vite. Il se met à avoir des pulsions un petit peu violentes.
Et c'est ainsi que, un matin, un bœuf du voisinage parvient à entrer dans les jardins. Et ce bœuf est en train de piétiner les plates-bandes, si l'on peut dire. Napoléon saisit son fusil de chasse et abat le bœuf, raide mort, dans son jardin.
Il a manqué de tuer une sentinelle anglaise, hein, une fois. Il a tué un canard, il a tué des poules. Bref, tout le monde commence à poser quelques questions tout de même. Hein.
Et puis malheureusement, assez vite, la maladie le rattrape et c'en est fini du jardinage.
Il finira par vivre reclus jusqu'à s'enfermer complètement, non seulement à l'intérieur de Longwood, mais même dans sa chambre, qu'il ne quittera pas pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et on voit bien, d'une certaine façon, qu'il a, je crois, tout fait pour convoquer la mort, comme une sorte de lent suicide.
Dans les derniers mois de sa vie, il dit régulièrement des phrases du type « Il n'y a plus d'huile dans la lampe, donc il est prêt de s'éteindre, il en est très conscient. » Il apprend la mort de sa sœur Elisa début 1821 et il a l'impression qu'il va être le prochain sur la liste. Pour lui, l'exil touche à sa fin et il doit se préparer à mourir.
En avril 1821, Napoléon rédige ses dernières volontés, un document autographe arraché à la souffrance et à l'agonie. Il est aujourd'hui précieusement conservé dans l'armoire de fer des Archives nationales, aux côtés des testaments de Louis XIV et de Louis XVI.
Je meurs dans la religion apostolique et romaine, dans le sein de laquelle je suis né il y a plus de 50 ans. Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. Ensuite, il s'adresse à son fils. Je recommande à mon fils de ne jamais oublier qu'il est né prince français. Et ensuite, il y a une phrase extrêmement célèbre. Je meurs prématurément assassiné par l'oligarchie anglaise. Donc là, l'empereur entre vraiment dans un aspect plus politique de sa mort.
Donc il condamne l'oligarchie anglaise, hein, pas les Anglais ni le peuple anglais, hein, qui lui est resté assez favorable. Il veut dire qu'en ayant été mis prisonnier, ils l'ont finalement assassiné, et son sicaire, c'est-à-dire Sun Lo. L'essentiel de son testament est de nature financière. Il dispose de plusieurs millions de francs à Paris qu'il va distribuer d'abord à ses compagnons de captivité. Donc il va en tout désigner 70 personnes qui forment les irréprochables de Napoléon, en fait, et à qui il distribue des centaines, des dizaines de milliers de francs, enfin des sommes considérables.
Le moindre berger corse qui l'a aidé avant 1793 s'y trouve.
Il n'oublie pas non plus les soldats de sa grande armée à qui il veut léguer plusieurs millions là aussi. Pour sa famille, les Bonaparte, il ne lègue presque rien, quelques meubles, etc. Sans doute estime-t-il leur avoir assez donné dans sa vie.
L'empereur se souvient qu'il a régné sur l'Europe et il est encore celui qui dicte, qui impose et qui exige. Et ça, c'est une des qualités, je dirais, du caractère de Napoléon qu'il va garder au fond de lui, je dirais, quasiment jusqu'à la dernière extrémité.
Ayant mis ses affaires en ordre, Napoléon peut enfin s'échapper de sa prison d'exil.
Le 5 mai 1821, pour l'Europe, ne représente rien. Quand Napoléon meurt, personne en Europe ne connaît les conditions de sa captivité, ne sait dans quelles circonstances il est mort, et donc ne prend conscience que c'était Prométhée sur son rocher qui agonisait le 5 mai 1821.
L'église du Dôme des Invalides est considérée depuis le règne de Napoléon comme le panthéon militaire de la France. On y a installé les tombeaux de nos plus illustres soldats, Turenne, Vauban, mais aussi plus récemment les maréchaux Foch ou Lyautey. En France, après la Révolution de 1830, la monarchie de Juillet succède à la Restauration. C'est le roi Louis-Philippe Ier qui décide, près de 20 ans après la mort de Napoléon, de rapatrier ses cendres en France. À Sainte-Hélène, prévoyant que les Anglais refuseraient à son corps le droit de revenir en France, Napoléon a choisi d'être enterré dans la vallée du Géranium, un lieu charmant non loin de Longwood où coule une source. Le 9 mai 1821, escorté par les compagnons, la dépouille de l'empereur chemine vers ce premier tombeau, tandis que la garnison anglaise lui présente les armes. Comme les Français et le gouverneur n'ont pas réussi à s'entendre sur l'inscription à graver sur sa tombe, il repose sous une simple pierre nue. Mais il ne faut pas attendre longtemps pour qu'à Paris, comme dans le reste du monde, sa légende prenne tout son essor.
La formation de la légende est un phénomène extraordinairement rapide.
Patrice Guénifet, historien.
Un peu comme une boule de neige qui grossit à partir de la publication du mémorial en 1823.
Le mémorial de Sainte-Hélène est à la fois l'histoire de Napoléon racontée par lui-même et l'évaluation de cette histoire, un peu par Napoléon, mais beaucoup par Emmanuel de Lascazes.
On découvre tout à coup que Napoléon était l'homme des libertés, l'homme des nationalités.
Lascazes va pousser le bouchon pour que Napoléon soit un empereur libéral, un empereur qui, après avoir assuré l'égalité, allait assurer la liberté, un empereur qui voulait l'éclosion des nations européennes, toutes choses évidemment qui ne se sont pas passées pendant le vrai règne de Napoléon.
L'aigle prend à nouveau son envol pour à nouveau envahir les consciences et les mémoires.
Le mémorial se révèle un best-seller extraordinaire que l'on va s'arracher pas seulement en France, mais dans toute l'Europe.
De la tabatière à l'image d'Épinal, en passant par les bustes en plâtre, le visage de l'empereur s'affiche sur tous les supports possibles. Le docteur Antomarchi, médecin légiste de l'empereur, est l'auteur du plus recherché de ses souvenirs, dont plusieurs versions sont conservées au château de Malmaison.
L'empereur meurt le 5 mai. Et le 6 mai, dans l'urgence, on se dit qu'il faut faire une empreinte.
Isabelle Tamizier-Vétois, conservatrice en chef du château de Malmaison.
Il faut garder un souvenir de ça. C'est la barbe, si je puis dire, des Anglais qui ne voulaient pas qu'il y ait un commerce de la relique autour de l'empereur. Et c'était quelque chose qui tenait à cœur, a priori, à Madame Bertrand, qui était assez amie avec Antomarchi. Et l'idée a dû germer de figer pour l'éternité les traits de l'empereur. Ces traits émaciés, on les reconnaît des tableaux qui le représentent en tant que premier consul, avec un nez légèrement busqué et puis des pommettes saillantes, très maigres. Évidemment, la maladie l'a amaigri. En 1833, Antomarchi lance cette souscription. Il se dit « je vais vendre des reliques de Napoléon ». Et donc, il va éditer dans différentes matières, avec un coussin ou sans coussin, en plâtre, en marbre, en bronze. Il se fait un commerce juteux de ces reliques de masque de Napoléon. Ce masque, c'est un élément clé de la légende napoléonienne. C'est la figuration la plus réaliste, s'il en est, du visage de Napoléon. Et tout d'un coup, il est là, il est palpable, il est à côté de nous, et c'est très très fort.
La vengeance posthume de Napoléon sur la figure d'Hudson Lowe sera terrible. Il va rentrer en Angleterre. Et là, il est persuadé, mais persuadé, qu'il sera couronné de laurier. La jeunesse londonienne l'attend au port. Et c'est une volée de choux, de légumes pourris, qui atterrit sur sa calèche.
Il était considéré comme le geôlier, comme celui qui avait fait subir un martyr à l'empereur. On l'insultait dans la rue, on a essayé un moment de le lyncher.
On va l'exfiltrer. Et alors là, il y a une ironie terrible de l'histoire, parce que c'est une autre île qui l'attend, c'est Ceylan. Et on en fait le lointain, très lointain gouverneur de Ceylan. Napoléon avait prédit que son nom continuerait à briller au firmament de l'histoire, mais que le nom d'Hudson Lowe serait évidemment flétri. C'est exactement ce qui s'est passé.
En 1840, Louis-Philippe appelle comme président du Conseil Adolphe Thiers. Adolphe Thiers est bien sûr un homme politique, mais c'est aussi un historien. Il s'apprête à publier une histoire du consulat et de l'Empire en 20 volumes. Et c'est Thiers qui va réussir à convaincre Louis-Philippe de faire revenir les cendres de Napoléon Ier.
Quel formidable lancement pour un livre! Jamais aucun auteur n'aura pu imaginer meilleur slogan publicitaire qui fait qu'on s'arrachera l'histoire du consulat et de l'Empire de Thiers.
Le retour des cendres, c'est vraiment un acte de communication qui est décidé par Louis-Philippe.
Non pas pour relancer le mythe de Napoléon Ier, mais pour étouffer le parti bonapartiste.
Et on va tenter, à travers la figure de Napoléon, de redorer le blason de la monarchie.
L'annonce du retour des cendres de Napoléon donne lieu à une ovation à la Chambre des députés. Et même dans la population, c'est considéré comme une grande nouvelle.
Et on décide que dans les semaines qui suivent, la frégate La Belle Poule appareillera avec à son bord comme commandant le prince de Joinville, l'un des fils du roi Louis-Philippe, qui commandera le bâtiment à bord duquel seront ramenées les cendres de Napoléon.
Ce qui rend cette expédition émouvante, c'est qu'on va inviter les anciens compagnons de Sainte-Hélène pour aller rechercher le corps de Napoléon.
La Belle Poule arrive en rade de Jamestown. Le 15 octobre 1840, Napoléon était arrivé lui-même à bord du Northumberland un 15 octobre en 1815. Et cet événement-là, comme quelques autres sentiments de déjà-vu, sont de nature à susciter des émotions extrêmement fortes.
Une des premières promenades des anciens compagnons de Napoléon va être le pèlerinage de Longwood, si l'on veut. Et ils vont être extrêmement déçus, puisque après la mort de Napoléon, Longwood a été rendu au gouvernement de Sainte-Hélène, qu'il a lui-même loué à des fermiers qui ont transformé cette maison en ferme.
Il y a des animaux à l'intérieur des appartements de Napoléon, du foin, des déjections, les fenêtres sont cassées.
Après cette première étape, les Français se rendent dans la vallée du Géranium pour accomplir leur mission, l'exhumation de Napoléon. La sépulture est bien défendue puisque le corps a été placé dans 4 cercueils imbriqués avant d'être recouvert de terre, de gravier et de ciment.
L'ouverture de la tombe est particulièrement longue et pénible, le gouverneur Hudson Lowe ayant mis tout en œuvre après l'enterrement de Napoléon pour faire en sorte que personne ne vienne jamais essayer d'arracher à la terre les restes de celui qu'il appelait le voisin ou le général Bonaparte.
Les travaux ont lieu de nuit, à la lueur des flambeaux, il va même pleuvoir à verse à un certain moment, et puis on va procéder à l'identification, puisque c'est ce qui avait été décidé, donc on va ouvrir les cercueils de Napoléon.
Ces cercueils, imbriqués les uns dans les autres, provoquent un vide d'air.
Léa Charlicard, commissaire d'exposition au musée de l'armée.
Donc on doit percer des trous dans le dernier cercueil afin de permettre au gaz de s'échapper pour enfin ouvrir le dernier cercueil.
Selon une rumeur tardive mais tenace, le corps dans le cercueil ne serait pas celui de l'empereur. Une étrange théorie selon laquelle Napoléon ne serait pas mort à Sainte-Hélène et qui impliquerait Cipriani, son espion maître d'hôtel.
impossible de mettre la main à Sainte-Hélène sur la tombe de Cipriani. On ne sait pas ce qu'est devenu le corps. Et on va jusqu'à attiser encore davantage le mystère, puisqu'une tradition osera dire que ce n'est pas Napoléon qui est enterré, mais Cipriani que l'on aurait placé dans la tombe de Napoléon déjà à Sainte-Hélène.
Et que Napoléon se serait enfui aux États-Unis, où il aurait rejoint Betsy Balcombe, et donc serait devenu Monsieur Abeille.
Le docteur Guillard va replier l'espèce de gaz qui recouvre le corps de Napoléon. Il y a eu des sanglots, il y a eu des cris, il y a eu une grande surprise. Napoléon, 19 ans plus tard, était là devant ceux qui l'avaient connu.
C'est Napoléon, marchant, n'a pas de doute, les témoins qui sont là n'ont aucun doute, et Napoléon est assez conservé.
C'est un Napoléon presque vivant. Un procédé chimique à l'intérieur du cercueil et de la tombe presque hermétiquement fermée a eu lieu, qui a permis la préservation, confinant presque à l'embaumement des chairs de l'empereur, et c'est lui qu'on retrouve comme s'il s'était endormi pour 20 ans.
Bien des années plus tard, le caractère exceptionnel de la conservation du corps donnera lieu à une nouvelle hypothèse sur les causes de la mort de Napoléon.
Pensez donc, cet homme a 51 ans, il est réputé avoir toujours été en parfaite santé, il n'y a aucune raison qu'il meure, sauf si on a ajouté, comme on dit à l'époque, quelques poudres dans sa nourriture, ce qui fait qu'il aurait été empoisonné.
Pour certains tenants de la thèse de l'empoisonnement de Napoléon à l'arsenic, on aurait déjà essayé, sur le malheureux Cipriani, le poison destiné à tuer, quelque temps plus tard, Napoléon.
Alors certains ont accusé le général de Montholon d'être le coupable, d'être l'assassin, sauf que toute la carrière du général de Montholon prouverait plutôt qu'il est un bonapartiste assez fervent. Toute cette thèse repose sur du sable. À Longwood, on appliquait la règle des palais impériaux, c'est-à-dire que personne n'avait accès à la cuisine, qu'on surveillait énormément la façon dont on préparait les plats et que par conséquent, l'empoisonneur n'aurait jamais pu opérer.
Afin d'en avoir le cœur net, il nous faut nous pencher sur l'autopsie pratiquée à Longwood dans les heures qui ont suivi le décès. L'un des meilleurs historiens de la santé de Napoléon, le docteur Alain Goldscher, nous reçoit au Musée d'histoire de la médecine à Paris.
Francisco Antomarchi a pratiqué l'autopsie de Napoléon le dimanche 6 mai 1821 à 14h. C'est Napoléon lui-même qui demande l'autopsie. Parce que le 25 mars 1821, il a un vomissement avec du sang à l'intérieur. Et là, pour la première fois, les médecins disent que son mal vient certainement de l'estomac. Et là, ça lui fait tilt. Il sait que son père est mort de l'estomac et il dit au médecin, je veux qu'à ma mort, on ouvre mon corps. S'il y a un mal héréditaire, qu'on prévienne mon fils. Donc quand Antomarchi a ouvert l'abdomen, le premier organe auquel il accède, c'est le foie. Le foie était normal. Il ouvre l'estomac et là, c'est la surprise générale. On aperçoit un trou. Ce trou fait l'épaisseur d'un petit doigt, d'un annulaire. C'est un ulcère qui a perforé toute la paroi de l'estomac, de part en part, et qui l'a tué.
Napoléon a agonisé dans des souffrances terribles. Et sans doute était-il un dur à cuire. Sans doute se refusait-il, comme il disait, à tirer sur la paille, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas le nécessaire pour rester en vie le plus longtemps possible, mais il devait être doté d'une volonté de fer et il n'a jamais rien lâché.
Après son exhumation, le corps de l'empereur rejoint le port de Jamestown. Sur le trajet, soldats et officiers anglais lui rendent les honneurs. Ce 18 octobre 1840, ce ne sont pas les cendres du général Bonaparte que les Britanniques remettent à la France, mais bien celles de l'empereur Napoléon. C'est donc drapé de grandeur que l'illustre exilé quitte Sainte-Hélène à bord de la frégate La Belle Poule. Un mois et demi plus tard, le précieux fardeau est débarqué à Cherbourg, où 100 000 personnes se pressent pour l'accueillir. Il est alors transbordé sur un bateau à vapeur, la Normandie, pour remonter la Seine.
Tous ceux qui savent que la belle poule vient d'arriver, et ils sont de plus en plus nombreux, ont envie de célébrer l'arrivée de la dépouille de l'empereur sur le sol français.
Sur tout le trajet, il y a partout des gens qui manifestent. Le souvenir de la gloire passée revit dans les mémoires des gens.
Ce sont des chants ou des moments de recueillement improvisés par les anciens de la Grande Armée qui attendent sur les ponts, sur les berges, ou simplement des hurrahs, des vives l'empereur lancés par la population.
À Rouen, le corps de Napoléon est transféré à nouveau sur la Dorade, un bateau catafalque. L'ultime voyage de l'empereur s'achève à Courbevoie. Napoléon, enfin, touche le sol français.
Il fait un froid de canard, il fait moins 10 degrés, quelque chose comme ça. On est le 15 décembre.
Une foule qu'on estime à 1 million, 1 500 000 personnes va accompagner le cortège jusqu'aux Invalides.
Les cloches sonnaient, les tambours battaient. Napoléon a même eu l'honneur de passer sous l'Arc de Triomphe, qu'il avait lui-même ordonné de construire, mais qu'il n'avait pas vu terminer.
Un char qui fait plus de 10 mètres de haut, qui est tiré par 16 chevaux, qui est décoré par des statues, crêpé évidemment de noir, accompagné par des troupes, accompagné aussi par les anciens de la Grande Armée qui ont ressorti leurs vieux uniformes.
L'ensemble du cérémonial est pensé pour arriver jusqu'aux Invalides, en triomphe, et c'est véritablement ça qui se passe.
Louis-Philippe finit par s'apercevoir que l'opération politique qu'il avait imaginée, c'est-à-dire étouffer le parti bonapartiste, risque de se retourner contre lui.
Napoléon aurait aimé le choix des Invalides, car il a toujours manifesté un immense respect pour ce lieu où ses soldats étaient soignés.
Il a réussi à avoir une fin qui soit aussi grandiose qu'avait été son existence. C'est l'apothéose la plus géniale que l'on pouvait imaginer pour un tel destin.
Napoléon inspire et représente un destin assez fabuleux, celui du fils d'une petite famille nobiliaire corse qui devient empereur et maître du monde à seulement 34 ans. Et donc pour moi, Napoléon, c'est une étoile filante de l'histoire et qui suscite des passions, positives ou négatives d'ailleurs, mais qui ne peut tomber dans l'oubli.
Sainte-Hélène, c'est la couronne d'épines que l'histoire pose sur le front de Napoléon. Sainte-Hélène fait Napoléon. Et Sainte-Hélène, par sa douleur, par sa solitude, par la mort même de l'empereur, c'est une sorte de sacre supplémentaire qui est offert par la postérité à Napoléon.
Sainte-Hélène, c'est, on peut le dire, la dernière victoire de Napoléon.
Vers 1900, un petit garçon se rendait régulièrement aux Invalides. Son père, professeur d'histoire, avait l'habitude de l'emmener se recueillir devant le tombeau de Napoléon. Ce petit garçon, c'était Charles de Gaulle. Quelles que soient nos convictions ou notre histoire personnelle, on ne peut pas rêver à la grandeur de la France sans convoquer le souvenir du prisonnier de Sainte-Hélène, l'un des personnages historiques préférés des Français. Je vous remercie de votre fidélité et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire.
Vous venez d'écouter Secrets d'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Secrets d'Histoire est un podcast d'Initial Studio, adapté de l'émission de télévision éponyme, produite par la Société européenne de production. Cet épisode a été écrit et réalisé par Antoine Demeaux. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassan. Montage, Camille Legras et Tim Dombouche. Avec la voix d'Isabelle Benadj.